Écho d'ici, écho d'ailleurs. Jean-Pierre Boris.
Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous nous penchons sur une espèce peut-être en voie de disparition, les pays émergents. Il y a quelques années, les BRICS pour Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud et quelques autres aussi, Turquie ou Mexique, étaient considérés comme l'avenir de l'économie mondiale. Des pays en voie d'industrialisation, dotés d'un PIB, produit intérieur brut en croissance forte, assez en tout cas pour prendre le relais des pays développés de cette vieille Europe, de cette Amérique fatiguée qui ne générait plus assez de richesses pour porter la croissance mondiale. Ces pays-là, c'était la relève sur laquelle on comptait pour réduire la pauvreté dans le monde. C'était les heureux bénéficiaires de la mondialisation. Et puis aujourd'hui, à l'exception de la Chine, le moteur de ces pays émergents a calé. La croissance a disparu. Alors est-ce une crise passagère? Les pays émergents sont-ils condamnés à la stagnation ou au déclin? Et quel impact sur l'économie mondiale? Voilà les questions que je vais poser aux invités que je vous présente maintenant. Bonjour Pierre Salamin.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite des universités et co-responsable du séminaire BRICS à la MSH, la Maison des Sciences de l'Homme, un haut lieu de la recherche française. Vous avez publié l'an dernier aux éditions de la Documentation française un livre intitulé « Des pays toujours émergents » avec un point d'interrogation.
C'est
important.
Important.
Est-ce que la liste des pays émergents s'arrête aux 5 pays désignés par l'acronyme BRICS que je rappelais tout à l'heure, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud?
Non, bien sûr que non. Il y a eu plusieurs autres pays. On a essayé même d'inventer des regroupements. Ça n'a pas toujours très, très bien marché. Mais c'est évident qu'il y a toute une autre. Il y a la Malaisie, il y a la Thaïlande, etc. Il y a toute une série d'autres pays, une vingtaine de pays, disons.
On parlait des tigres asiatiques dans le temps.
Dans le temps jadis, on parlait des dragons et des tigres. Mais c'était parce qu'ils avaient connu une croissance accélérée à peu près 10 à 20 ans plus tôt.
Alors, avec nous dans ce studio également, Jean-Joseph Boileau. Bonjour, Jean-Joseph Boileau.
Bonjour.
Vous êtes professeur agrégé de sciences sociales. Vous avez été en poste au Trésor, au ministère des Finances, où vous vous occupiez déjà des pays émergents. Vous êtes l'auteur de plusieurs livres consacrés en particulier à l'Inde. Et vous avez publié récemment aux éditions Odile Jacob, avec Stanislas Dembinski, un ouvrage au titre mystérieux, Chine d'Afrique. On comprend mieux avec le sous-titre, La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, ça veut dire que le pessimisme dont vous vous êtes fait l'écho à propos des émergents, je reste persuadé que c'est une vision de l'esprit. La Chine fait encore 5 à 7%, l'Inde est en train de dépasser la Chine en taux de croissance. Quant à l'Afrique, j'y peux rien, vous avez 5 pays qui vont quasiment faire 10% de croissance cette année. Donc le monde émergent, c'est parce qu'on a voulu en faire un bloc homogène. Alors, la Russie, c'est pas vraiment un pays émergent, hein, il faut être sérieux, mais va contribuer pour 70% à la croissance mondiale. Donc je resigne la Chine, l'Inde et l'Afrique au sens de monde chinois, monde indien et monde africain sont aujourd'hui les moteurs de l'économie mondiale.
On en reparle tout au long de cette émission où nous allons parcourir ce monde émergent, en particulier avec des reportages de Jérôme Bastion à Istanbul, Alexandra Branjon à Johannesburg et François Cardona à Rio de Janeiro. Nous entendrons aussi l'économiste principal de la COFAS, Yves Zlotowski.
Écho d'ici, écho d'ailleurs, sur RFI.
Pierre Salamin, est-ce qu'on peut esquisser une définition de ce qu'est un pays émergent?
Non, en fait, il n'y en a pas. Ça vient d'un mot, si je puis dire, un mot d'esprit, de Goldman Sachs, sans plus. Ça a commencé par les bourses émergentes, puis après les pays émergents, pour la raison précisément qu'ils connaissaient une croissance beaucoup plus élevée que celle des pays avancés, point à la ligne, pas plus. Ils sont profondément hétérogènes. Chacun, à l'heure actuelle, souffre de difficultés pour des raisons totalement différentes. La Chine a ses problèmes qui sont complètement différents de ceux du Brésil aujourd'hui. D'ailleurs, le Brésil aujourd'hui connaît une croissance à la française, même je crois qu'elle fait pire en 2014, puisqu'elle n'a eu que 0,14 de croissance, ouais. Et que l'année prochaine, c'est la récession.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes d'accord avec pas de définition pour les pays émergents?
Non, il n'y a pas de définition, c'est l'image quand même, hein, qui est importante. C'est pas Goldman Sachs qui est à l'origine du concept de pays émergent. C'est cette idée hein, d'un iceberg qui émerge. À l'origine, on disait emerging. Emerging, c'est un iceberg qui émerge.
Qui sort du néant.
Et c'est vrai que vous avez, depuis les années 70, donc ce n'est pas d'hier le phénomène des pays émergents, vous avez parlé des nouveaux pays industrialisés. Hein.
Je parlais des tigres.
Oui, c'est ça, des tigres asiatiques, qu'on appelait les NPI à l'époque. Okay. Vous avez, à partir des années 70-75, derrière finalement le Japon, qui lui a émergé, un ensemble de pays. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un train, une véritable locomotive qui a tiré les uns, les autres, etc. Et ça s'est répandu sur la planète au point qu'aujourd'hui, on se pose la question de l'Afrique. Est-ce que c'est pré-émergent ou émergent, avec le chiffre que je vais vous citer. Vous avez les 5 pays qui vont faire quasiment 10% de croissance. Donc il y a un phénomène derrière, qui n'est pas seulement celui des boursiers, boursicoteurs de Goldman Sachs, qui est celui d'un rattrapage. Et je crois que, indéniablement, depuis 30 ans, vous avez un basculement du monde vers ce monde émergent qui est hétérogène, mais qui quand même bouscule franchement ce qu'était l'ordre établi dans l'après-guerre.
Alors, est-ce qu'il y a des pays émergents qui ont émergé, qui sont passés dans la catégorie pays développés? Vous parliez du Japon à l'instant. Est-ce que le Japon, ça a été jadis un pays émergent?
C'est très très bonne question, parce que tout le monde reconnaît que la bonne définition du décollage ou de l'émergence, ce n'est pas 2-3 années de forte croissance. C'est un phénomène auto-entretenu, stable, qui dépasse sur 5-10 ans ce fameux taux de croissance qui est de l'ordre de 5 à 10%, c'est-à-dire une convergence vers les pays à niveau de vie déjà élevé. Ça, cette émergence-là, on la voit tous les jours. Vous prenez les courbes, l'année dernière, ce qu'on appelle le monde émergent a dépassé dans le PIB mondial, non pas en parité de pouvoir d'achat, mais à taux de change courant, le bloc des pays développés. Donc vous avez, vous voyez, sur cette courbe, depuis les années 70, un phénomène de grignotage, et le basculement s'est produit en gros 2011-2012, et on est bien obligé de regarder ce monde qui tire la croissance mondiale.
D'accord, Pierre Salama ?
Partiellement, parce que il y a deux problèmes d'abord. Le premier, c'est que nombre de pays dits émergents, et ce depuis pas mal d'années maintenant, connaissent ce que l'on appelle le piège du revenu moyen. Ça veut dire un très fort ralentissement de la croissance. Et alors, on parlait du Japon, là c'est très très net. Second problème, et je crois qu'il est de taille, quand on parle de ces fameux pays émergents, du basculement du monde, et ça c'est vrai qu'il y a un basculement du monde, c'est surtout porté par la Chine. C'est relativement peu porté, notamment par les pays latino-américains ou encore par les pays, d'autres pays, disons, asiatiques. Donc ça, je crois que c'est quand même quelque chose de très important, c'est souligner le rôle de la Chine et ne pas penser que parce que la Chine fait ceci, les autres font l'égal. C'est, je crois, à mon avis, il faut insister sur l'hétérogénéité à ce moment.
Pierre Salama, vous parliez du piège du revenu moyen, c'est quoi ?
Le piège du revenu moyen, c'est qu'arrivé à un certain niveau de développement, vous avez un ralentissement relativement prononcé de la croissance. Le cas type étant évidemment le Japon, qui est en pleine stagnation économique, mais c'est aussi le cas pour la Malaisie, pour nombre de pays, et on est en train de s'interroger sur quelles sont les conditions qui entraînent ce ralentissement brutal de la croissance. Je voudrais juste ajouter un point. Nombre de pays dits émergents connaissent ce qu'on appelle une désindustrialisation précoce, c'est-à-dire...
On va en parler tout à l'heure.
Oui, c'est-à-dire sont portés par autre chose.
C'est ce qu'on appelle la trappe des pays intermédiaires. Le cas du Japon, ça c'est le problème de la stagnation séculaire.
Parce que et le pour Japon, les émergents, c'est plus un pays intermédiaire.
Exactement.
Plus
pour les émergents, on parle de la trappe des pays intermédiaires. C'est-à-dire, en gros, aux alentours de 10 000 dollars de PIB par habitant. Et c'est la raison pour laquelle on s'inquiète pour la Chine, parce qu'on atteint ce niveau-là. Et puis, il y a aussi un autre seuil qui est celui du décollage. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on passe le 1 000 dollars par habitant. Et alors, c'est vrai qu'un certain nombre de pays ont connu cette trappe, et notamment l'Amérique latine.
Alors, on va partir au Brésil avec les présidents Fernando Henrique Cardoso, puis Lula da Silva. Le Brésil est entré à partir des années 90 dans une phase de transformation accélérée de son économie, le gigantisme de son agriculture, l'exploitation pétrolière, les ressources minières, l'industrie. Le Brésil incarnait une nouvelle Amérique latine, mais réélu en novembre dernier, la présidente Dilma Rousseff affronte aujourd'hui une économie en panne. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, du correspondant de RFI à Rio de Janeiro, François Cardona.
Dans le magasin d'électroménager, les vendeurs semblent désœuvrés. André Acosta, le gérant, traîne dans les rayons où l'on ne croise que quelques rares clients. L'inflation au Brésil est désormais la plus élevée depuis 12 ans. La consommation qui faisait tourner l'économie brésilienne est au ralenti. Pour André Costa, l'année commence très mal.
Nos ventes ont vraiment fait une chute de 10 à 15% déjà. Je crois que les gens attendent de voir comment le gouvernement va réagir. Du coup, ils dépensent beaucoup moins qu'avant. Ils font des réserves en attendant de voir ce qu'il va se passer. Et puis les clients ont peur maintenant d'acheter à crédit et de ne pas arriver à rembourser. C'est devenu difficile. La situation est vraiment compliquée. Et ici, dans la boutique, je vais peut-être devoir licencier quelqu'un.
L'inflation élevée touche la nouvelle classe moyenne brésilienne qui a réduit de moitié ses dépenses dans les supermarchés ces 6 derniers mois. Elle doit souvent s'endetter encore davantage pour faire face à la hausse des prix, alors que déjà près de 50% des foyers brésiliens consacrent la moitié de leurs revenus à rembourser leurs emprunts. Au marché aux légumes, dans le centre de Rio, Mercedes, une mère de famille de 54 ans, est découragée.
Chaque fois qu'on vient ici faire les courses, c'est un peu plus cher. Les prix ne cessent d'augmenter. Vous savez, c'est effrayant, l'inflation nous frappe dur. Ici, au marché, avant c'était abordable pour nous. Et aujourd'hui, c'est fini.
Il n'y a pas que les légumes, l'électricité ne cesse d'augmenter, plus de 70% de hausse attendue dans les mois qui viennent, car une crise énergétique majeure touche le Brésil. Avec une croissance proche de zéro, même le ministre de l'économie brésilien Joaquim Levy admet que 2015 s'annonce très mal.
Nous allons peut-être avoir un trimestre de récession, même si cela ne devrait pas mettre en cause notre reprise. L'économie prend toujours du temps pour réagir. On a déjà été en récession, puis ça s'est amélioré. Le plus probable maintenant, c'est que la croissance va reprendre.
Le Brésil, pourtant, semble bien engagé pour une deuxième année consécutive de stagnation et une érosion plus prononcée encore du pouvoir d'achat des Brésiliens.
C'est un reportage de François Cardona, Rio de Janeiro. Pierre Salama, je vous voyais réagir, sourire, vous exclamer, enfin, ne pas rester passif, en tout cas, à l'écoute de ce reportage.
Non, je pense que, malheureusement, il y a quelques points superficiels, disons. Je crois que la crise est grave. La crise est grave et elle est la conséquence d'une chose relativement simple, c'est que le pays a profité pendant des années et des années de la hausse du cours des matières premières, mais n'a pas vraiment préparé l'avenir. Et bien au contraire, pendant ces années, il a profité en important, si je puis dire, au lieu de favoriser l'industrialisation. La désindustrialisation est devenue relativement massive, mais ce n'était pas important puisqu'il y avait l'argent à cause des matières premières pour pouvoir...
Grâce aux matières premières,
la hausse du cours des matières premières, grâce à la Chine dans une certaine mesure, pour donc financer la consommation des ménages qui étaient en hausse. Mais rien ou si peu a été fait pour développer l'industrie. Et aujourd'hui, tout cela se paye puisqu'il y a un effondrement du cours des matières premières et la crise, malheureusement, aujourd'hui, est d'ordre structurel et non pas seulement conjoncturel.
Et ce que François Cardona rapporte, les difficultés de la consommation, des Brésiliens à consommer?
Oui, mais là où il exagère un peu, avec toutes mes excuses, c'est le crédit n'est pas encore très important en Amérique latine et au Brésil y compris, puisque c'est seulement 40 à 50% du PIB, alors qu'en France, on est largement, mais largement au-dessus. Et donc, par conséquent, il est faux de dire que les ménages dépensent la moitié de leurs revenus pour rembourser les emprunts. Cela, c'est une erreur. C'est pas la peine d'en rajouter. C'est déjà assez catastrophique pour ne pas en rajouter, je crois, à mon avis du moins.
Jean-Joseph Boileau, c'est un problème qu'on rencontre dans d'autres pays émergents, cette imprévision face à l'avenir?
Non. Simplement, ça confirme que l'Amérique latine, c'est un pays, une zone émergente depuis 2 siècles, et comme le disait un célèbre économiste, qui va le rester. Pourquoi ? Parce qu'il y a des conditions tout à fait spécifiques aux sociétés latino-américaines. Et vous ne le retrouvez pas en Asie. En Asie, les fourmis.
Attendez, restez sur l'Amérique latine. Qu'est-ce que c'est que ces conditions auxquelles vous faites allusion ?
C'est deux phénomènes très simples. Le premier, c'est la culture de la cigale. Et c'est très important par rapport aux fourmis asiatiques. Il y a une culture de la cigale. Dès que j'ai de l'argent, je le flambe. Deuxièmement, il y a une culture de la violence avec une division très importante dans ce pays entre ces blancs, finalement, qui ont colonisé, qui disposent de tout le capital, et puis une grande partie de la population. Il n'y a pas de croissance inclusive. C'est un problème fondamental de l'Amérique latine.
C'est-à-dire que vous n'avez pas en Asie. Inclusive, ça veut dire partager par tous.
Le partage, hein, mettre dans le moteur de la croissance tout le monde.
Pierre Salama, vous tiquez.
Dans mon précédent livre, je l'avais intitulé, qui était sorti avec Charmant Colin, les économies émergentes latino-américaines, j'avais intitulé également Entre cigales et fourmis, pour dire précisément qu'il semblait que dans les années 2000, on abandonnait le statut de cigale pour aller davantage vers fourmis. Mais il y avait aussi un point d'interrogation de ce point de vue. Ceci dit, c'est vrai que les pays latino-américains, et je le déplore profondément, sont des pays qui ne sont pas du tout inclusifs. Les inégalités de revenus sont fantastiques, mais il est également vrai que les pays asiatiques, Chine en tête, deviennent de plus en plus exclusifs. Je suis absolument désolé, les inégalités de revenus sont déjà au niveau de l'Argentine en Chine, c'est-à-dire très, très, très élevé. Selon les dernières enquêtes, je suis désolé, elles sont encore beaucoup plus élevées en réalité.
Jean-Joseph Boileau, vous vous agitez derrière le micro, là, je vous vois.
Oui, parce que c'est le problème en France du traitement des milliardaires et des gens riches. La différence entre l'Amérique latine et la Chine, et je le vois quand je vais au Brésil et quand je vais ensuite à Shanghai, c'est que dans le train chinois, vous avez tout le monde. C'est ça qui est très important. Cette culture de l'Asie, en général, l'Asie du Nord, je parle, que vous avez en Corée, que vous avez aussi au Japon, c'est l'attention à l'homme, à la communauté, au groupe. De sorte que le taux de chômage, très très important finalement en Amérique latine, qui est quelque chose de structurel, l'éducation, et contraste avec l'Asie qui est très fort. Donc il y a des gens très riches, il y a des fortes inégalités en Chine, mais tout le monde monte. C'est ça la différence. Tout le monde monte. Quand vous regardez les niveaux, par exemple, de scolarisation, en l'espace de 25-30 ans, dans le monde chinois, on va dire, ils ont progressé très fortement. On a vraiment, à chaque fois que j'arrive en Amérique latine, un choc qui est celui d'inégalités tellement visible. En Chine, il y en a, mais ce sont des entrepreneurs, ces milliardaires en général. Ils investissent et ils respectent le groupe.
Pierre Salama. Ne vous inquiétez pas, il y a également des milliardaires, malheureusement, en nombre très très important, également au Brésil ou au Mexique. Mais non, les inégalités montent, c'est indéniable, dans les pays asiatiques. La seule différence est très importante, c'est qu'il y a une croissance très forte en Asie, si bien que, y compris quand les inégalités augmentent, les plus pauvres voient leurs revenus augmenter relativement fortement.
Les investissent alors que là-bas, ils vont à New York.
Oui, mais c'est encore notre problème. Absolument, mais ça c'est un autre problème. Donc les inégalités augmentent et c'est le grand problème, y compris politique aujourd'hui en Chine.
Alors, est-ce que ce maintien des inégalités est un frein à la croissance, Pierre Salama?
Ah, je pense qu'au moins les Chinois aujourd'hui le considèrent comme un frein à la croissance. Il n'y a qu'à voir la multiplication à l'heure actuelle des procès sur la corruption. C'est pas seulement à cause de cela, mais enfin pour montrer qu'effectivement aujourd'hui on arrive au bord de la rupture. Et en Amérique latine, c'est également vrai, là, et également en Afrique du Sud, je pense qu'on en parlera plus tard, c'est également vrai, les inégalités aujourd'hui sont devenues quasi insupportables et constituent un frein à la croissance.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes d'accord avec ça?
Ah oui, oui, tout à fait. Ce qui est intéressant dans la politique chinoise, et qui n'existe pas en Amérique latine, c'est précisément, et on l'avait vu au Japon aussi, cette volonté de faire pression sur ceux qui se sont enrichis pour qu'ils investissent et que ceux qui ont profité de cet enrichissement pour flamber, comme les Brésiliens à New York, etc., soient punis. Et c'est très important. La légitimité en général en Asie, on va dire du Nord, repose sur des États développementistes pour tous. Okay. Ça, c'est fondamental. Et il n'y a pas ça en Amérique latine parce que les États sont contrôlé en réalité par cette minorité blanche.
Qu'est-ce que vous appelez un État développementiste, Pierre Salama?
Un État développementiste, ce serait par exemple ce qui s'est passé en Amérique latine dans les années 50 à, en gros, 70, c'est-à-dire un État qui investit et qui pousse ses entrepreneurs à investir. Là, évidemment, depuis, disons, une trentaine d'années, globalement, avec la grande crise de la dette des années 80, on est allé vers une pratique de plus en plus libérale, une idéologie libérale qui a été imposée et qui s'est imposée et qui a fait qu'effectivement, lorsque de l'argent est arrivé en Amérique latine avec la hausse du cours des matières premières, ces économies se sont facilement transformées en rentières et les comportements étaient davantage rentiers que schumpeteriens, comme par exemple dans le cas de plusieurs pays asiatiques. Ça, malheureusement, c'est tout à fait exact.
Jean-Joseph Boileau, vous êtes d'accord avec ce point de vue? Le développementisme, ça n'a pas perduré en Amérique latine comme ça l'est en ce moment en Asie?
Exactement, mais ne parlons plus de la Chine, mais parlons de l'Inde. On voit bien qu'en Inde, par exemple, par rapport à l'Amérique latine, vous avez une véritable volonté de développement et le terme croissance inclusive est au centre du système. C'est ça la grande différence.
Nous parlerons de l'Inde dans la deuxième partie de cette émission. Pour l'instant, c'est la fin de la première partie de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la panne ou pas des pays émergents. Nous nous retrouvons dans quelques instants après un flash d'actualité. Bienvenue dans cette deuxième partie d'Écho d'ici, Écho d'ailleurs, l'émission qui démonte les rouages de l'économie mondiale. Aujourd'hui, nous parlons de la panne de croissance des pays émergents. Deux invités dans ce studio, le professeur d'économie Pierre Salama, auteur à la documentation française d'un livre intitulé « Des pays toujours émergents » avec un point d'interrogation, et Jean-Joseph Boileau, auteur avec Stanislas Dembinski de « Chine d'Afrique », La Chine, l'Inde et l'Afrique feront le monde de demain, publié aux éditions Odile Jacob. Au cours de la première partie de cette émission, nous avons défini ce qu'était un pays émergent et avons évoqué les problèmes de l'économie brésilienne. De nombreux pays latino-américains ont connu des niveaux de croissance records au cours des dernières années, mais aujourd'hui, le soufflet est retombé. À l'origine de la panne de ces économies émergentes, il y a parfois ce qu'on appelle un problème de taux de change. La monnaie nationale s'effondre. Écoutez ce qu'en disait récemment lors d'une conférence de presse l'économiste principal de la COFAS, Yves Slotowski, propos recueillis par Bandan Sisunton du service économie de RFI.
Il y a eu évidemment Lehman, mais il y a eu surtout 2013, les annonces de la Fed qui ont eu un impact très fort sur l'échange émergent, et 2014 avec bien sûr le rouble russe qui a battu toutes les anticipations de crise de change. On leur a dit aux pays émergents, accumulez des réserves. Accumulez des réserves de change, pourquoi ? Parce que d'abord, vous pouvez utiliser ces réserves si votre taux de change est attaqué, mais surtout, les réserves, c'est préventif. C'est-à-dire que comme vous avez beaucoup de réserves, personne n'osera attaquer vos taux de change, donc ils seront stables. Les pays émergents ont bien retenu cette leçon, c'est-à-dire qu'effectivement, il n'y a pas un seul pays émergent qui a moins de 4 mois de réserve. Pourquoi est-ce que finalement, au bout du compte, ça ne sert à rien ? Ça ne sert à rien parce que il faut savoir que les pays émergents ont reçu une telle quantité de capitaux que finalement, ils ne pouvaient pas faire face. Il faut penser par exemple que les flux de capitaux spéculatifs, donc ceux qui peuvent sortir très facilement, ont augmenté de 150% entre 2007 et 2014. Donc effectivement, là, il y a bien un problème qui est lié à l'intégration financière des pays émergents, qui a été certes très bénéfique pendant beaucoup d'années, et je dirais que depuis Lehman, ils en sentent beaucoup, je dirais, les méfaits, les effets déstabilisateurs, alors qu'en gros, ils n'en sont pas exactement responsables.
Jean-Joseph Boileau, les problèmes des pays dits émergents sont liés à leur insertion insuffisante ou excessive dans la sphère financière ?
Là encore, mon problème quand même, c'est les pays émergents. Sincèrement, je ne peux pas acheter cette thèse parce que je ne la vois pas. Je ne vois pas de déstabilisation aujourd'hui en Inde, même en Indonésie ou en Chine, etc. Il y a dans le bloc, on va dire, des pays dits émergents, le cas de la crise russe ou de la crise d'Afrique du Sud ou bien du Brésil. Mais fondamentalement, dès lors que ce groupe de pays, les émergents ou pays en développement, font plus de 50% du PIB mondial. Vous comprenez bien que les déterminants du cycle global impactent. Et il y a deux déterminants qui les impactent depuis 2-3 ans. C'est d'une part la politique américaine. Et donc, il y a eu, du fait de la politique laxiste américaine, des flux de capitaux considérables qui sont allés s'investir. Vous voyez, moi, quand je mettais 100 euros sur le marché indien, ça me rapportait à peu près 10-12% chaque année. Alors que si je les mettais sur le marché américain, ça me rapportait zéro en termes de taux d'intérêt. Et le deuxième impact, c'est la fin du grand cycle chinois. On ne comprend pas que le super cycle chinois des 30 dernières années a alimenter une sorte de bulle sur les émergents, alors qu'en fait, comme le disait Pierre Salama, elle a désindustrialisé la Chine, tout un ensemble de pays qui sont devenus plus ou moins fragiles. Donc ceux qui s'en sortent aujourd'hui sont les pays émergents qui ont d'une part cette capacité d'absorber le choc industriel chinois, et c'est le cas de l'Inde, ou de quelques pays africains, et d'autre part les pays qui, face au cycle américain du dollar, ont non pas des réserves de change, mais ont eu une politique monétaire sage, équilibrée. Et c'est vrai que beaucoup de pays émergents n'ont pas eu ça. Et c'était les cigales, les capitaux sont rentrés et ils ont flambé. D'autres, au contraire, ont utilisé ces capitaux pour investir, c'est les fourmis.
Pierre Salama, est-ce qu'il est facile d'utiliser des capitaux dits spéculatifs pour investir à long terme ?
Spéculatif, non, mais les investissements étrangers directs, oui. Le problème est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de capitaux dits spéculatifs, de la haute monnaie, qui sont rentrés dans les pays dits émergents. Et ils ont donné l'illusion entretenue notamment par de nombreux scientifiques, etc., ou des membres des institutions internationales, que les réserves augmentaient. Or, il s'agissait de fausses réserves. Et dès 2013, on l'a vu très très nettement, l'argent qui était rentré est ressorti suite à la modification de la politique américaine. Donc, il n'y avait pas de miracle, il y avait un mirage de ce point de vue. Et le problème, c'est que tout cet argent entrant, avec en plus la hausse du cours des matières premières, les taux de change ont augmenté énormément, précipitant la désindustrialisation, ce qu'on appelle, nous autres, la maladie hollandaise, le Dutch disease. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu toute une série de pays dans lesquels les gouvernements se sont illusionnés que ça allait durer, 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 sauf que les rêves ont une fin. Et quand ils ont une fin, ils se transforment en cauchemar. Et aujourd'hui, il y a plusieurs pays qui souffrent, et c'est pas seulement le Brésil, mais c'est également l'Argentine très très fortement. C'est quasiment tous les pays latino-américains souffrent, et souffrent énormément. De nombreux pays asiatiques aussi également souffrent, et également de nombreux pays africains, notamment tous ceux qui ont, dont la croissance a été portée par la hausse du cours des matières premières. Alors, donc là, je crois que c'est un problème assez grave en ce moment.
On y vient, Pierre Salama. L'Afrique du Sud vient justement de publier ses résultats de croissance pour 2014. Comme pour l'Amérique latine, 1,5% de croissance du PIB seulement, très loin des résultats nécessaires pour résorber les disparités sociales et enrayer le chômage qui frappe environ, mais ce ne sont que des chiffres officiels, 25% de la population active, officieusement, c'est beaucoup plus. Pourquoi l'Afrique du Sud, un pays comme l'Afrique du Sud, flanche-t-il ? L'Afrique du Sud n'est pas comme la Russie qui souffre de la baisse très forte des prix du pétrole, Jean-Joseph Boyau.
Parce que vous avez une illusion qui est de croire que la géographie, c'est ce qui est déterminant. L'Afrique du Sud est beaucoup plus proche, en réalité, des modèles latino-américains. C'est exactement la même histoire dont je parlais tout à l'heure, d'un côté des coloniaux blancs qui ont accaparé les terres, les mines, etc. Et une population noire qui est extrêmement dépourvue d'électricité. 90% de la population d'Afrique du Sud n'a pas d'électricité, il faut le savoir aujourd'hui. Et donc cette économie-là, en plus, a été atteinte, comme en Amérique latine, par la maladie hollandaise. L'industrie d'Afrique du Sud, qui avait commencé un peu derrière des protections à se développer, a été cassée dans les années de croissance incroyable du prix des matières premières. On leur a dit, c'est pas la peine, il faut rentrer dans le jeu économique mondial.
Pourtant, il y a une industrie automobile très forte.
Très protégée, comme en Amérique latine, et qui n'a, au début, c'était bien la protection, mais qui n'a utiliser la protection en réalité comme rente et qui n'a pas réinvesti. De sorte que le prix de revient d'une automobile en Afrique du Sud, c'est trois fois le prix de revient d'une automobile en Espagne. Donc une industrie comme ça, n'a pas d'avenir. Et donc l'Afrique du Sud, elle, est touchée par cet affaissement du prix des matières premières, parce que fondamentalement, l'Afrique du Sud, c'est quand même l'exportation du charbon, du diamant, etc. Et tous ces prix se sont effondrés. Donc il n'y a plus de moteur à la croissance parce que la croissance n'était pas inclusive.
Alors, on reste en Afrique du Sud. Il y a deux semaines, lors de son discours à la le président Jacob Zuma a annoncé que les étrangers ne pourraient plus détenir de terres agricoles dans le pays. Deux décennies après la fin de l'apartheid, la terre reste un sujet très sensible. Une bonne partie du foncier reste aux mains de la minorité blanche. Le gouvernement a décidé de relancer son programme de redistribution des terres, mais l'annonce du président Jacob Zuma a suscité des inquiétudes. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, de la correspondante de RFI à Johannesburg, Alexandra Branche.
L'annonce du président sud-africain a provoqué un vent de panique. Les étrangers ne pourront plus posséder du foncier. 24 heures après, le gouvernement a clarifié sa position et tenté de calmer les investisseurs. Cette mesure ne concerne que les terres agricoles et ne sera pas rétroactive. Difficile d'estimer le nombre de citoyens étrangers ou de sociétés étrangères possédant des terres en Afrique du Sud. Il n'y a pas de chiffres. Mais pour Anne Liebach, économiste chez Grant Thornton, les investisseurs étrangers sont présents dans de nombreux secteurs de l'économie.
Il y a bien évidemment les mines, le secteur manufacturier, l'immobilier, bien que cela ne représente pas grand-chose en pourcentage. Il y a également des réserves naturelles, ex-domaines viticoles, des terres agricoles et puis tout simplement de la terre qui n'est pas utilisée pour une activité économique.
L'impact que va avoir cette nouvelle loi quand elle sera votée n'est pas clair, d'autant plus que les étrangers pourront toujours continuer à louer des terres sur du long terme, 30 à 50 ans, ce que font la plupart des multinationales. Pour Peggy Drodsky de la Chambre de commerce et de l'industrie sud-africaine, cette mesure ne devrait pas avoir d'impact sur les gros secteurs de l'économie que sont l'automobile et les mines.
Nous avons un nombre important de multinationales ici en Afrique du Sud. Si nous devions perdre ces groupes, ce serait une perte énorme pour notre économie, notamment en termes d'exportation. L'Afrique du Sud a probablement une des industries manufacturières automobiles les plus importantes au monde. Ces groupes ont leurs usines dans des zones urbaines au nord de Johannesburg, dans la province du KwaZulu-Natal et du Cap-Oriental. Mais si c'est vrai que cette réforme ne va s'appliquer qu'aux zones agricoles, ces multinationales ne devraient pas être affectées.
Pour Anne Liebach, économiste, cette annonce envoie surtout un message négatif.
La première réaction du monde des affaires a été « Oh mon Dieu, les étrangers ne vont plus pouvoir posséder du foncier. Que va-t-il se passer pour ceux qui veulent investir dans des industries qui sont propriétaires de terres ?» Alors qu'on revenait juste de Davos où le président avait appelé les investisseurs à venir en Afrique du Sud, il annonce ensuite dans son discours à la nation que les étrangers ne pourront plus posséder de terres.
Les économistes s'accordent à dire que dans l'immédiat, cette nouvelle loi va surtout avoir un impact psychologique sur les investisseurs.
Pierre Salama, la morale de ce reportage d'Alexandra Abrangeon à Johannesburg, c'est que pour les pays émergents, il n'y a pas de salut hors de l'investissement étranger ?
Non, je crois que c'est un peu plus compliqué, surtout pour l'Afrique du Sud. C'est pas seulement l'Amérique latine, c'est aussi l'Inde, l'Afrique du Sud. Espérance de vie extrêmement faible. Le taux d'alphabétisation est extrêmement faible. Les Noirs restent, il n'y a plus d'apartheid officiel, mais il y en a un officieux. Les Noirs restent complètement à la marge de la société. Il y a seulement une bourgeoisie petite, pas bien noire, qui s'est développée. Donc c'est une situation qui est extrêmement difficile à l'heure actuelle. Quand vous dites qu'il y a une croissance prévue de 1,5 compte tenu de la croissance démographique, c'est une baisse de la croissance. Et que, en règle générale, dans ces périodes-là, les inégalités s'accentuent. Or, là, elles ont le niveau latino-américain. Elles sont extrêmement élevées, avec une violence également très forte. Donc c'est un certain type de réponse, mais c'est une réponse, je crois, très maladroite, qui a été faite, parce qu'elle rappelle ce qui s'est passé chez son voisin au nord, le Zimbabwe, où on a interdit aux Blancs, on les a expulsés de continuer à posséder des terres, et ça a été la catastrophe du point de vue agricole. Donc, il y a à la fois la nécessité de changer enfin les choses, parce qu'elles n'ont pas vraiment changé en Afrique du Sud, et en même temps, il y a la manière de le faire. Et cette manière, je crois, risque d'être déplorable.
Alors, il a le même genre de problématique foncière en Inde, Jean-Joseph Boileau, où le gouvernement est accusé de vouloir privilégier les grands investisseurs dans les zones agricoles au détriment des petits paysans. C'est un problème commun à tous ces pays ?
Non, on n'est pas du tout. Dans la situation de l'Afrique du Sud, en Inde, puisqu'en Inde, la petite propriété familiale foncière est majoritaire, mais extrêmement majoritaire. Il n'y a pas eu, parce qu'il y a eu des réformes agraires, etc., il n'y a pas de grand domaine du latifundia. Par contre, la nouvelle loi sur la terre visait effectivement à permettre de se sortir du blocage complet qu'il peut y avoir dans deux domaines. Un, le développement d'agro-industrie sur de grandes surfaces, puisqu'il n'y en a pas du tout. Et deuxièmement, l'industrie en Inde a beaucoup de mal à trouver, parce que c'est un pays très densément peuplé, hein, 1,3 milliard d'habitants, c'est une densité effective de plusieurs centaines, en réalité, d'habitants au kilomètre carré. On n'est pas du tout dans le cas latino-américain là-dessus. Par contre, ce que la situation d'Afrique du Sud, ou d'Inde d'ailleurs, soulève, c'est pas seulement la question des terres, c'est les politiques agricoles. Et on voit bien que le monde émergent qui réussit, c'est intéressant, c'est la réforme agraire japonaise, coréenne, taïwanaise, chinoise, en partie seulement, hélas seulement en partie en Inde, c'est la redistribution des terres, c'est le développement d'une classe moyenne agricole. Et des politiques agricoles. Or, il n'y a pas de politique agricole en faveur de cette économie familiale en Afrique du Sud, mais on le retrouve partout en Afrique. Le problème, c'est pas de donner des terres, c'est de mettre en place des politiques agricoles qui permettent à cette exploitation familiale de se développer. De ce point de vue, l'Inde, c'est un grand succès.
En Inde,
c'est
le gouvernement de Narendra Modi, Jean-Joseph Boileau, doit présenter aujourd'hui, samedi, son programme économique pour la relance de la croissance. Pourtant, l'Inde a un produit intérieur brut, une richesse nationale en hausse de 5%. Est-ce que c'est assez vu la masse de population qu'il y a dans ce pays?
Oh oui. Le problème de l'Inde, comme le dit Amartya Sen et Jean Drez dans leur dernier livre, c'est pas une question de croissance. La croissance n'est pas de 5%. La croissance indienne, d'après les chiffres révisés, a dépassé les 6%. Et on le voit. On le voit très bien. Et pour l'an prochain, on estime que la croissance indienne pourrait dépasser la croissance chinoise en termes de taux de croissance avec 6,5, 6,8%. Et je suis assez optimiste, effectivement, sur la reprise endogène. Endogène. C'est ça la différence entre l'Inde et l'Amérique latine. C'est qu'elle a des moteurs internes, des industries, des consommateurs. Elle est à la fois fourmi et à la fois cigale. Ce que Narendra Modi va annoncer, c'est extrêmement important, ce sont les infrastructures. Car ce sur quoi butent la plupart des pays émergents, c'est les biens publics, ce sont les infrastructures. La Chine a été championne, un peu trop, paraît-il, et l'Inde est en train de rattraper là-dessus. Un programme ferroviaire qui vient d'être annoncé cette semaine, qui est extrêmement intéressant. La révolution qui est annoncée dans le programme ferroviaire indien, de cette semaine, c'est plusieurs dizaines de milliards investis dans la modernisation du chemin de fer.
Alors vous écoutez Écho d'ici, Écho d'ailleurs sur RFI, nous parlons de la panne de croissance des pays émergents. Deux invités dans ce studio, Jean-Joseph Boileau, auteur de Chine d'Afrique aux éditions Odile Jacob, et Pierre Salama, auteur à la documentation française des pays toujours émergents. avec un point d'interrogation. Jusqu'à présent, Pierre Salama, au cours de cet écho d'ici écho d'ailleurs, nous avons évoqué les pays membres du groupe des BRICS, le Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud. Mais les pays émergents ne se résument pas à ces cinq nations. On pourrait parler de l'Indonésie ou du Mexique ou de la Malaisie. Autre exemple avec la Turquie, qui était au début de la décennie l'une des économies les plus dynamiques de la planète, avec un taux de croissance frôlant les 10%. L'ambition du gouvernement turc était de hisser le pays au 10e rang mondial à l'horizon 2023. Mais le pays est revenu aujourd'hui à des objectifs plus réalistes. C'est un reportage Écho d'ici, Écho d'ailleurs, signé Jérôme Bastion, correspondant de RFI à Istanbul.
Istanbul, dans le quartier des bijoutiers du célèbre Grand Bazar. Ce Capharnaüm, dans un minuscule passage, est ce que l'on appelle la bourse debout. C'est un marché d'échange parallèle au marché interbancaire des devises qui fixe, au gré de la situation locale et internationale, le taux de la livre turque. Un bon moyen de prendre le pouls de l'économie turque avec Kerim Tunjer, un cambiste qui a trois téléphones portables dans une main et un thé dans l'autre.
La croissance était portée par la consommation intérieure malgré une crise qui est mondiale. Nous avons une population jeune qui consommait beaucoup, mais le marché intérieur s'est rétréci et la croissance s'est contractée au-delà de nos attentes. On est lié à la situation aux États-Unis et au reste du monde. Le secteur du bâtiment est en surchauffe, les promoteurs n'arrivent pas à écouler les logements construits et les industriels, d'une manière générale, sont freinés par la cherté du crédit.
Diagnostic tout à fait confirmé dans son bureau de l'université Bahçeşehir par le professeur Seyfettin Gürsel.
Il y a un an, le taux de chômage était de l'ordre de 9,5%. Maintenant, il est plus de 10,5%. L'inflation, c'est l'un des grands problèmes, est toujours élevée en Turquie. 7,2% par an. Et ça pose des problèmes. Et puis, l'économie turque a un déficit toujours important extérieur. Je pense pas, je m'attends pas à une crise économique, à une récession, etc., à une stagnation non plus. La Turquie est condamnée à une croissance plutôt faible, autour de 3%, mais continue. Mais ce n'est pas suffisant pour un pays qui doit se développer. Pour contrôler le chômage, la Turquie a besoin d'un taux de croissance plus élevé.
Le ministre de l'économie, Ali Babacan, pouvait donc, en décembre dernier, tirer ce bilan globalement positif.
Malgré tous les événements intérieurs et extérieurs, en dépit du resserrement de la politique monétaire de la réserve fédérale américaine, l'économie de la Turquie continue de croître. Actuellement, si on excepte la Chine et l'Inde, le taux de croissance des pays émergents d'Asie du Sud-Est est inférieur à celui de la Turquie. Pareil pour les économies d'Amérique latine, y compris Brésil et Mexique, dont la croissance moyenne est inférieure à celle de la Turquie.
À moins d'une crise politique, la situation semble donc sous contrôle. D'ailleurs, pour ce chef d'entreprise français qui travaille dans le textile, aucun souci majeur.
Nous, en tant qu'exportateurs, nos marchés étant à l'étranger, on ressent pas le ralentissement de l'économie turque directement. Nos clients turcs, ils continuent de commander. On n'a pas un effondrement. Mais la difficulté qu'on a, c'est que les marges s'usent et diminuent. Bon, après, ce qui nous impacte un petit peu, c'est les fluctuations du taux de change. C'est toujours inquiétant parce qu'en tant qu'entrepreneur, on cherche la stabilité.
À preuve, il se donne encore au moins 20 ans d'activité dans le pays avant de chercher à se relocaliser.
C'était un reportage de Jérôme Bastion à Istanbul. La Turquie a bénéficié de beaucoup de délocalisations, par exemple dans l'industrie textile, on entendait à l'instant un de ces industriels. Est-ce que le ralentissement qu'on constate dans les pays émergents se traduit par beaucoup de désindustrialisation? C'est un sujet que vous avez déjà évoqué, Pierre Salama, dans cette émission. Mais est-ce que c'est massif?
Non, il y a plusieurs pays dont la Turquie comme également le Mexique, eux au contraire, ont bénéficié grâce au développement des industries d'assemblage, à un certain type d'industrialisation, mais disons une industrialisation qu'on a appelée tronquée. Dans le cas de la Turquie, la situation est quand même assez difficile à l'heure actuelle, car aux dernières statistiques tendent à montrer que la croissance tend vers zéro aujourd'hui, non pas vers 3% comme il a été dit. Et le problème de la Turquie, c'est qu'il y a des fluctuations de change et les entreprises sont très, très endettées. Donc par conséquent, il y a un problème de crédibilité de leur capacité à rembourser les dettes puisqu'elles ont été faites en monnaie étrangère. Donc ça, c'est un très gros problème, c'est l'endettement privé. C'est un pays qui a aussi également un double déficit, très important au niveau budgétaire et encore plus important au niveau de ce qu'on appelle la balance des comptes courants, qui est à peu près de 6 à 7% du PIB.
C'est énorme. La balance des comptes courants, vous pouvez nous rappeler ce que c'est?
C'est la balance commerciale, elle-même négative, et c'est la balance de tous les services, comme par exemple le tourisme, le paiement des dividendes, le paiement des intérêts de la dette, etc. C'est pas la balance des flux de capitaux. Hein. Et là, maintenant, ça commence à devenir un peu dangereux. D'ailleurs, elle a souffert, comme la Thaïlande, comme d'autres pays, comme le Brésil, en 2013, de sortie de capitaux massive et donc de dévaluation très très importante de la monnaie nationale. La seule chance, entre guillemets, avec mes excuses, chance, entre guillemets, d'un point de vue strictement économique, c'est que, elle peut bénéficier de la chute du cours des matières premières, notamment elle est très, très importatrice de pétrole, et le pétrole a vu, son cours baisser de moitié. Donc ça, c'est une chance, si je puis dire, entre guillemets. Le problème, et vous savez très bien, il y a des problèmes politiques en Turquie qui sont très importants, surtout dans les villes. Dans les campagnes, vous savez que c'est eux qui ont appuyé le président sortant. Mais dans les villes, c'est pas le cas. Et quand il y a une crise économique qui se développe, eh bien, en général, cela suscite, sans être mécaniciste ou déterministe, mais cela suscite des mécontentements. Et donc là, on a un problème qui est de gouvernance, de rapport, de fonctionnement de la démocratie en période de crise. Et je crois que ça, c'est un problème important aujourd'hui en Turquie.
Jean-José Boileau, dans la plupart de ces pays émergents qui ont malgré tout se sont développés, qui se sont enrichis, on a assisté à l'émergence d'une classe moyenne. Est-ce que cette classe moyenne aujourd'hui en Chine, en Inde, en Afrique du Sud est suffisamment forte pour caler cette croissance et la faire repartir?
Non, non, pas du tout. C'est le grand mythe de beaucoup de documents sur les pays émergents, marché du futur, et vous lisez l'argument classe moyenne. C'est précisément ce qui a fait tomber les pays latino-américains.
Cette vous classe moyenne. Vous leur en voulez,
hein? Vous leur en voulez. Non. Pour moi, ce qui est intéressant, c'est de comprendre méthodologiquement, on va dire. Et j'avais des cours du professeur Salama là-dessus, d'ailleurs. Lorsque les classes moyennes, dans un premier temps, se mettent à consommer, ont un capital culturel, social, scolaire qui aide au décollage, si tout d'un coup se crée entre ces classes moyennes-là et les classes populaires qui représentent 80-90% de la population, une sorte de fossé, de gap, à ce moment-là, le blocage du développement intervient au bout de 10 ans, en gros. Et là, la chance du modèle asiatique, si on veut prendre le modèle asiatique dans sa totalité, c'est justement de ne jamais avoir développé leur stratégie uniquement sur la classe moyenne, mais d'avoir inventé des modèles d'inclusion. Par quoi ? Par l'emploi. On a toujours eu au Japon, en Chine, etc., un taux d'emploi qui a permis d'intégrer tout le monde. Le cas de l'Afrique est similaire. Le risque de l'Afrique, c'est de buter très vite sur ce développement des classes moyennes qui, au bout d'un certain nombre de temps, si vous voulez, va tourner sur elle-même. Donc, la Turquie, c'est intéressant. Parce que la Turquie, c'est un pays qui, me semble-t-il, a échappé précisément à ce blocage de développement, cette trappe des pays intermédiaires, par le fait que l'emploi industriel s'y développe quand même. La Turquie, effectivement, ce que disait Pierre est très important, c'est un pays qui s'est industrialisé. Pourquoi il s'est industrialisé? Parce qu'il a des capitaines d'industrie. Ça m'impressionne. Pour moi, il ne peut pas y avoir de développement si vous n'avez pas des dizaines de milliers de capitaines d'industrie qui vont aujourd'hui délocaliser eux-mêmes parce que les coûts sont plus élevés en Turquie. Ils ont investi en Bulgarie, etc. Puis ils investissent en Afrique aujourd'hui.
Mais il y a aussi des capitaines d'industrie en Inde. Je pense à Tata. Mais il y en a plein.
C'est la principale des raisons de la soutenabilité de la croissance dans ces pays comme l'Inde. Il faut bien pas du capital seulement monétaire, il vous faut un capital entrepreneurial. Et c'est pour ça que les sociétés qui donnent les chances à tout le monde, en gros, hein, j'exagère, mais à tout le monde, d'être entrepreneur, pro-entreprise, ce sont des pays en développement en général qui réussissent. Même dans le cas de la Chine.
Malgré tout, Pierre Salama, il reste dans ces pays beaucoup de travailleurs informels.
Oui, alors il faut faire très attention avec les statistiques. Hein. En Chine, il y a beaucoup d'emplois, c'est vrai. Mais il y a 250 millions à 260 millions de travailleurs informels, entre guillemets. Ce sont les Mingong, c'est-à-dire des travailleurs qui n'ont pas droit, qui viennent de la campagne. Au Brésil aussi, vous avez très peu de chômage. Et c'est le secteur informel, les emplois informels. Ceux-là, on les appelle pas les Mingong, mais ce sont aussi des citoyens de seconde zone. Donc il faut faire très très attention aux statistiques. Si vous prenez le cas de l'Afrique du Sud, vous avez parlé de 25% de chômage.
Oui, officiellement. Mais ça,
c'est... Officiellement. Mais ça, c'est un héritage de l'apartheid. À savoir qu'il était impossible pour une personne de travailler illégalement, de manière illicite. Il fallait qu'elle soit déclarée. Et de fait, ben, il n'y a pas très peu de travail informel. Il y a du travail formel, mais il y a 25% de chômage. Donc, il faut faire très, très attention quand on manipule ce genre de statistiques. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'à l'heure actuelle, la Chine, disons, la force de la Chine, son efficacité, c'est d'avoir eu effectivement ce 10% de croissance qui faisait que malgré l'accentuation des inégalités, vous aviez une diminution très forte de la pauvreté et une amélioration du niveau de vie, y compris de ces Mingong, c'est-à-dire les travailleurs sans droit. Mais il suffit que la croissance baisse, et ça commence déjà, pour que se multiplie toute une série de révoltes, y compris à la campagne, mais aussi dans les usines. Et là, on se pose concrètement de nouveau, un peu comme en Turquie aujourd'hui, à nouveau le problème de la démocratie. Ça, je crois que c'est un des problèmes les plus essentiels.
Dernière question de cette émission. Est-ce que les problèmes que connaissent ces pays peuvent avoir un impact sur le reste de la planète? Vous disiez que leur masse critique était devenue majoritaire, Jean-José Boileau, à celle des pays développés. Mais si ces pays la ralentissent, la planète ralentit.
Non, non. Pourquoi? Parce que vous avez... dans cet ensemble pays émergents, comme l'a dit Pierre, quelque chose de composite, c'est hétérogène. Donc les vraies questions structurelles, c'est pas si le Chili ou même le Mexique, ça n'aura pas d'impact sur la planète. La question majeure, c'est sur les grands ensembles. La Chine, ça pète ou ça pète pas? Le soft landing se produit ou se produit pas? L'Inde, est-ce que elle va vraiment réussir à atteindre 6-7% de croissance? Est-ce que sur l'Afrique, c'est un pré-décollage ou un vrai décollage?
Pierre Salama, oui. En deux mots, vraiment deux mots.
Oui, en deux mots, je crois quand même que certains pays avancés peuvent souffrir effectivement d'un ralentissement important de la croissance chinoise, ne serait-ce qu'en termes de marché. Et je crois que dès aujourd'hui, on constate notamment aux États-Unis des procédures de relocalisation pour éviter peut-être précisément les conséquences d'une crise asiatique.
C'est la fin de cet écho d'ici, écho d'ailleurs, consacré à la panne de croissance des pays dits émergents. Merci à vous, Pierre Salama. Merci, Jean-Joseph Boileau, d'y avoir participé. Cette émission a été réalisée par Sophie Janin. Je vous dis à la semaine prochaine.